Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Une fracture, c'est comme une porte, il faut qu'elle soit ouverte ou fermée. Moi qui vous parle par exemple, et maladroit mais sportif comme je le suis, j'ai bien entendu eu à souffrir de fractures, de la malléole ou du gros orteil pour ceux que ça intéresse. Et oui, c'est douloureux, surtout qu'on se retrouve rapidement aux urgences. Et les urgences d'un hôpital, croyez-moi, c'est un peu comme les Parisiens. C'est mieux de les observer en distanciel qu'en présentiel, autrement dit confortablement installé dans un fauteuil de cinéma. Voilà sans doute pourquoi j'ai tellement aimé le film de Catherine Corsini, qui réunit allègrement les deux, les Parisiens et les urgences, et met le doigt là où ça fait mal. C'est normal, c'est une fracture, mais en nous faisant rire de nos travers et de ceux de notre temps, lui aussi fracturé, agité, débordé. Comme si Catherine Corsini s'était inspirée de cette célèbre déclaration d'Albert Londres, devenue le mantra des journalistes qui se respectent. Je cite « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus que de faire tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » Et nous ici, on aime quand le cinéma a cet effet-là. Cette émission a pour titre « Corps cinéma, chicha et pop 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 ». C'est parti.
France Inter. Pop pop pop. Antoine de Caunes.
Et bonjour Catherine Corsini.
Bonjour.
Voilà, les toniques ce bonjour.
Absolument, hein, complètement.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. Ça vous ennuie que j'invoque Albert Londres pour parler de fractures?
Ah non, j'adore. C'est un personnage, enfin un homme qui m'évoque tellement d'engagement, au contraire, c'est un très bel hommage.
Bon, et d'ailleurs, puisque nous sommes en pleine crise sanitaire, que j'évoquais les urgences et les services hospitaliers, puis-je me permettre de prendre de vos nouvelles? Comment allez-vous, Catherine Corsini?
Écoutez, ça va pour le moment, 3 vaccins, pas de Covid, je passe entre les gouttes, et pourtant je vais au cinéma régulièrement et au théâtre.
Bien, c'est un bel exemple, il ne faut surtout pas renoncer à tout ça. Corsinéma, chicha, c'est donc le titre de cette émission, car aujourd'hui nous n'allons parler que de cinéma, si vous le voulez bien, sachant que le cinéma parle du monde, le monde du cinéma sera donc notre sujet. Est-ce que ça vous convient, Catherine?
Ah bah oui, j'adore.
Ok, c'est notre programme jusqu'à 17h. Nous parlerons de votre dernier film aussi, La Fracture, qui est toujours en salle, et de la Cinéthèque, cette plateforme de VOD qui propose de se replonger dans les grands classiques du cinéma, avec plus de 850 films au catalogue.
Pour la Cinéthèque... 1700 films.
Ah oui, ça a doublé.
2700 cités, 1700 films actuellement.
Mais bravo, mais dites-moi, mes informations sont totalement datées.
Date un petit peu. Bon. Excusez-moi de vous le dire.
Ouais, pardonnez-moi, j'espère rétablir dans la suite de cette émission. Bon, tiens, j'ai une question très embêtante pour vous, parce que là, on parle des films de Cinéthèque, de la Cinémathèque, hein, parce que c'est le cinéma depuis ses origines jusqu'à 2005, mais depuis 2005, y a-t-il un film en particulier qui ait retenu votre attention, Catherine Corsini?
Bah, c'est un film qui, justement, peut-être fait aussi partie de mon historique, dans tous les cas, c'est 120 battements par minute. Mmh. En fait, je me suis dit que ce film... Parce que justement, il parle aussi de... J'ai beaucoup pensé en faisant La Fracture, parce qu'il parle aussi effectivement de l'engagement, il parle d'une époque, il parle de ces jeunes gens qui ont essayé d'activer toute une société qui, par rapport au sida, ne prenait pas acte de ce qui se passait, et qui ont été extrêmement... J'allais dire, c'est aussi issu des mouvements féministes, c'est-à-dire que tous les mouvements d'ACT UP ont été des mouvements absolument remarquables, des actions qu'on pouvait, j'allais dire... Évidemment, mettre un préservatif sur la colonne de la Concorde. C'est pas anodin, voilà, aller au-dessus de l'opéra et de brandir aussi des banderoles, etc. C'est des choses qui pour moi sont des actes physiques engageants, en même temps qui sont spectaculaires. Donc c'est le spectacle aussi que, et puis c'était ce mouvement de jeunes gens de tout un moment d'une population dont on se disait qu'ils étaient décimés par ce virus et effectivement une société qui montrait du doigt, qui désignait, au lieu, j'allais dire, d'être fraternel et d'essayer de combattre cette pandémie.
Un cinéma du réel.
Voilà.
Donc.
Ça a été un moment absolument tragique. Mmh. Et je pense que on voit bien aujourd'hui, avec la pandémie qu'on est en train de subir, combien on a réussi en très peu de temps, justement, à avoir un vaccin. Je pense qu'aujourd'hui, rétrospectivement, s'il y avait eu un vaccin par rapport au sida, je pense que voilà, toutes ces personnes qui étaient infectées, ben, se seraient inoculées avec grand plaisir.
Et ce jeune auteur que vous évoquiez, c'est évidemment Robin Campillo. Oui. 120 battements par minute. Écoutez, j'espère faire battre votre cœur à cette cadence jusqu'à 17h dans cette édition de Pop, Pop, Pop. Catherine, quand je vous vois, je pense à la Corse, évidemment, et je pense donc à Jacques Dutronc. Et quand je pense à Jacques Dutronc, ben, je pense évidemment, et moi.
Cent millions de Chinois, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de noirs. Et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques. Et moi. Avec mes manies hémétiques, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi. Comme un con de Parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie.
Et moi. C'était le premier morceau de cette émission spéciale 7e art en compagnie de la réalisatrice Catherine Corsini. Catherine, avant de parler de ce projet cinématographique, la Cinéthèque, parlons de votre rapport au cinéma. Vous dites que cette passion vient certainement de ça. Ça, c'est une malle. Une malle qu'on ouvre. Une malle donnée par votre mère et que vous recevez à l'âge de 7 ans et qui contenait une liste de films rédigés avec une écriture parfaite, dites-vous. Une malle qui contenait également des exemplaires des cahiers du cinéma, de positifs, des programmes de théâtre de l'époque de Jean Villard. Une malle qui appartenait à votre père, mort pendant la guerre d'Algérie à 26 ans. Sans cette malle, sans cette ouverture de malle, pas de Catherine Corsini aujourd'hui,
ben, ou une autre. Je sais pas, mais dans tous les cas, cette malle m'a. Je me souviens de disques de Léo Ferret, de disques de la voix de mon père enregistrant un poème, de ses poèmes, de ses petites bandes dessinées, et puis effectivement de ses revues de cinéma, de ses titres très très mystérieux. Des titres de Alfred Hitchcock, de Howard Hawks, enfin de Léo McCarey, etc., de Capra, bon, donc voilà, effectivement, je me disais, mais c'est qui toutes ces personnes, tous ces gens, etc. Et puis progressivement, j'ai découvert les films de ces auteurs, j'ai fait le lien, je me suis plongée un peu par comme si c'était une manière aussi de connaître cet homme que j'avais peu connu, puisque j'avais 2 ans et demi quand il est mort. Donc c'était une manière de connaître, d'essayer de connaître son univers, d'essayer de savoir qu'est-ce que... Alors j'ai aussi écouté des interprétations de Gérard Philippe, puisque je savais que c'était aussi un de... Alors moi j'étais ça m'effrayait un peu parce que je trouvais qu'il chantait beaucoup.
Oui, beaucoup.
Donc j'étais pas voilà, j'étais bon, même si le théâtre a été aussi une de mes premières passions, puisque j'ai voulu être actrice et que j'ai suivi des cours comme les cours d'Antoine Vitez et que j'étais voilà, je pense que j'étais presque trop en demande. J'étais très tragédienne.
C'est vrai d'ailleurs que vous squattiez presque clandestinement certains cours.
Oui, effectivement. Je suis rentrée un peu. Enfin, vous avez reçu Jean-Pierre Darroussin. J'ai commencé mes cours de théâtre avec lui chez Florent.
Ouais.
Et ensuite, je suis rentrée un peu par une porte interdite au conservatoire. C'est-à-dire que bah, maintenant, je peux m'en moquer, je peux m'en vanter, mais j'ai passé le concours. Ils ont fait rentrer 12 élèves, filles, et j'étais la 13e, et la 12e ne venant pas, elle était soi-disant devenue la maîtresse de Johnny Hallyday. Enfin, ouais. Ça, c'était des histoires extraordinaires hein, qu'on nous disait à l'époque. Et donc, je suis arrivée directement dans le bureau du directeur en me disant, bah, je suis la personne, voilà, qui va remplacer cette fille qui ne vient pas. Et je crois que j'étais tellement sûre de moi que le mec, le Jacques Rosner à l'époque, il a osé rien dire.
Il
a pris peur, je crois. Voilà. Et je pense que quand je joue au théâtre, je faisais un peu peur. Quoi.
Donc, cette première formation d'acteur a été déterminante pour vous, mais un peu plus tard, à l'âge de 20 ans, vous allez ici. Ici, c'est évidemment le Festival de Cannes. Et là, vous découvrez ce film-là.
Syndicaliste !
Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien.
C'est quoi la musique qu'on entendait ?
Quelle musique ?
La musique là qu'on entendait. Ni bête, ni lieu, ni maître.
Tu crois qu'il suffit d'acheter un vélo et d'aller dans la montagne pour changer de vie ?
Ça te regarde plus.
Sauf qu'il peut, la vie de Jean-Luc Godard. Et ce film-là, vous l'associez immédiatement au bruit des fauteuils qui claquent, parce que dans la salle de projection, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Enfin, tout de suite, c'est un cinéma qui partage. Vous trouvez ce film absolument magnifique et vous basculez dans un autre monde, celui du cinéma. C'est ce moment-là, ce point de bascule ?
Ah oui, je pense que ça a été une... Ma place au conservatoire était devenue intenable parce que de jouer les faussaires à un moment, je me suis enfuie parce que je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui fonctionnait pas bien. Et donc, je suis arrivée à Cannes comme une espèce de bouffée comme ça de... Je sais pas de d'air et tout et j'arrive en plus moi j'étais tellement naïf que les gens me vendaient des places, c'est-à-dire que personne ne paye sa place à Cannes, mais moi j'achetais des places à la sauvette à des gens qui me revendaient leur place. Bon, vous imaginez bien ma naïveté, mais j'arrive devant ce spectacle du film de Jean-Luc Godard. Vous voyez, il y a déjà Dutronc dont on parlait, il y a Nathalie Bach qui est une actrice évidemment que j'adore. Enfin, je découvre ce cinéma qui est un cinéma, j'allais dire complètement à la fois physique, parce que il joue avec des espèces de ralentis, avec ces musiques qui arrivent, qui sortent d'une manière complètement abrupte. J'arrive dans quelque chose que je trouve complètement passionnant, complètement à la fois déstructuré, en même temps racontant des choses magnifiques. Il y a Dutronc qui fait venir Marguerite Duras. C'est une scène extraordinaire pour la faire intervenir à un cours. Et en fait, elle ne veut pas venir. Elle est cachée derrière une porte. Donc, en fait, je pense que Duras n'est jamais venu. Il ne joue qu'avec sa voix, Godard. Mais donc, il y a Dutronc qui dit à ses élèves, excusez-moi, elle ne veut pas venir. Elle est derrière la porte. C'est absolument hilarant. C'est formidable. Et en même temps, il y a des moments magnifiques. Il y a le moment de l'accident de Dutronc. Il a l'impression qu'il voit dérouler sa vie, qu'il va mourir, alors qu'il a juste un accident devant sa femme et sa fille. Enfin. Voilà, c'est passionnant. Et moi, à cette époque, je suis tellement fan d'ailleurs de Jean-Luc Godard que je me mets à dévorer tous ses films, à aller voir tous ses films à la Cinémathèque et à lui écrire des lettres. Parce que moi, je suis un peu folle, comme vous voyez. Voilà. Donc, je lui écris des lettres et des lettres tellement...
Et il vous répond. Et il vous rencontre dans un café.
Mais on se voit.
Extraordinaire.
On se voit et il me pose des questions de fou. Enfin, j'adore. Il me parle de Bukowski. Il me parle de... Il pleure en parlant de Raoul Coutard. Enfin, il me parle comme quelqu'un, comme un, presque un ami, comme quelqu'un, enfin, dans tous les cas, qui vous vous parle d'une, comme jamais un metteur en scène ne parlerait presque à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc, on mange un sandwich à l'hôtel Raphaël, il a un rendez-vous, on se revoit après, on reparle de nouveau, de plein de choses, du cinéma, etc. Bon, voilà, c'est un moment extraordinaire. Je le retrouve plus tard à l'époque de Passion à Cannes, où on lui donne rendez-vous avec un, je reviens à Cannes, on lui donne rendez-vous avec un copain, on se fait passer pour des journalistes suisses, et là, il me reconnaît, et donc, il se marre, et il passe pareil une heure et demie à parler avec nous, alors qu'on faisait un interview qui était complètement bidon. Je sais même pas si on avait un magnétophone et tout. Mais il discute avec nous, et c'est pareil, c'est passionnant.
Et voilà, Catherine Corsini, qui sombre corps et âme dans le monde du cinéma. Alors, ce cinéma, on va continuer à en parler, évidemment, dans quelques instants avec Charline. On va parler de Cinéthèque, on va reparler de La Fracture. Mais ce qu'on va faire, c'est que, on va écouter un petit peu de musique en attendant, et je vous propose d'écouter un morceau de Selassou qui s'appelle Hooray.
Got the whole world staring at you. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. Seeking and you live for the love. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache. Every minute, every day, it's so hard to
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux, car oui, c'est sur ce son que Charline Roux fait son entrée dans le studio. Oh, bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
La longue traîne picarde de votre robe de soirée, ça passe dans l'ascenseur.
Vous m'avez déjà vu monter des escaliers, qui plus est sur des talons, qui plus est en robe, jamais.
Oh,
il y a zéro témoin.
C'est magique. Charline, je vous présente Catherine Corsini.
Bonjour.
Qui vous présente.
Bonjour.
Elle, sa sélection de films pour la Cinéthèque. Ciné, c'est évidemment pour cinéma, mais tech, ça n'a rien à voir avec l'arbre tropical qu'on retrouve sur le pont des bateaux, j'imagine. Alors, de quoi s'agit-il ?
La Cinéthèque, c'est tout simplement le site de VOD consacré aux grands films du XXe siècle, choisi et présenté par des réalisateurs du monde entier, fondé par Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Conté. Vous y trouverez bon nombre de classiques. Pour la plateforme, ce sont des films réalisés avant 2005. Pour vous, Catherine Corsini, c'est quoi un classique ?
Un classique... Un classique, c'est un film que j'ai découvert... dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma voilà, qui a été un des films qui m'ont formé, qui ont formé mon esprit à la fois critique, qui ont été aussi des ouvertures sur le monde, qui ont voilà, qui ont contribué à faire ma formation d'être humain, d'humanité, des sensations, qu'est-ce que rire, qu'est-ce que pleurer, qu'est-ce que partager, qu'est-ce que découvrir. Voilà, pour moi, c'est tout ce qui a été, le cinéma classique. C'est tout d'un coup tombé en adoration devant des films d'Ozu, et c'est découvrir tout un pan de la société japonaise. C'est au contraire par contre aller vers un cinéaste comme Bergman, beaucoup plus, peut-être plus cérébral, et en même temps nous entraîner aussi vers une autre manière de penser, de regarder. C'est aller vers plein de cinématographies différentes, de pouvoir aussi apprécier des cinéastes russes, de revoir qu'est-ce qu'a été l'art du montage quand on pense à des films d'Eisenstein. Enfin, c'est tous ces pans,
les cas de figure, c'est des ouvertures.
Ah, c'est des ouvertures, c'est magnifique. C'est des choses qui vous restent, qui vous accompagnent, qui sont des moments de c'est comme, un premier baiser, c'est comme une première histoire d'amour. Moi, il y a des films qui sont, je sais pas, l'Aurore de Murnau, c'est tellement sublime que voilà, qu'il y a des moments de pas aimer ce genre de choses. Je pourrais me battre, je pourrais mais tuer pour un film.
Est-ce que Catherine Corsini aime le cinéma? Je me posais la question en l'écoutant.
Charline, mais alors, est-ce que c'est si facile d'établir une liste, de choisir, d'être curatrice? Perso, si on me demandait d'établir une liste définitive, je serais bien en peine. Quels ont été vos critères? Est-ce qu'ils étaient cinématographiques et ou affectifs?
Bah moi, je suis une grande affective, donc ils étaient quand même souvent affectifs. Après, je suis arrivée un petit peu après pas mal d'autres cinéastes quand on m'a demandé de choisir ma liste. Donc il y avait des films qui étaient déjà beaucoup cités. Donc je me suis dit que j'avais envie quand même d'amener ma particularité et d'être assez sensible et ouverte justement sur le cinéma des femmes, parce qu'il y avait peu de femmes citées. Et je me souviens par exemple d'une cinéaste qui m'avait complètement éblouie et fascinée, qui est une cinéaste qui pourrait dire peut-être un peu obscure ou un peu, mais qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Marie-Claude Treilloux, et qui avait fait un film dans les années 70. Il y avait aussi cette époque, il y avait Lani Porgertel de Virginie Thévenet. Marie-Claude Treilloux avait fait un film qui s'appelait Simone Barbès ou la Vertu, qui se passe dans un cinéma porno et qui est absolument délicieux, fantastique et fantasque, et qui était à l'époque de tout ce qui était la bande à Vecchiali. Et voilà, donc par exemple, c'est un film que j'ai ressorti, que j'ai amené dans ma liste, parce que voilà, c'était un film qui m'avait complètement fasciné. Évidemment, il y a ce film qui a déjà été cité par d'autres cinéastes, mais qui est un des plus grands films faits par une femme aussi, qui est un film unique, qui s'appelle Vanda, de Barbara Loden, qui était la femme d'Elia Kazan, et qui est un film absolument merveilleux et extraordinaire, parce que c'est une femme qui laisse tous ses enfants, etc., pour, c'est une espèce de femme qu'on a l'impression qu'elle se laisserait faire, mais qu'elle est comme une espèce elle flotte, quoi. C'est ce que c'est une espèce de femme qui flotte et en même temps qui apprend justement à être tout d'un coup regardée, à être aimée, même si elle est aimée et regardée par un type qui est pas forcément, c'est un petit escroc. Mais c'est cette espèce de parcours d'indépendance qui est merveilleux, qui est sublime. Et puis ce cinéma des années 70 qui amène une espèce en même temps de réalité, qui a une espèce d'image comme ça granuleuse, extraordinaire. Donc voilà, c'est parce que la cinémathèque, c'est de la transmission. La cinémathèque, c'est aussi fait beaucoup pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui... C'est vraiment une plateforme complètement antinomique de la plupart des autres plateformes, puisque c'est des choix de réalisateurs. Non seulement c'est des choix de réalisateurs, mais en plus il y a des petits bonus. Et moi, l'autre jour, je me suis amusée à regarder parfois des bonus de camarades, de collègues que j'apprécie beaucoup. C'est passionnant d'écouter Pierre Salvadori vous parler de Touchez pas au Grisby. Ouais. C'est passionnant, voilà, d'écouter Arnaud Desplechin parler de films de Lubitsch. C'est passionnant.
Je me pose une question comme ça, Charline. À votre avis, est-ce que Catherine Corsini aime le cinéma?
J'ai toujours pas de doute.
On a toujours pas de doute.
Non, aucun. Alors, aucun.
Cinétech, c'est donc pour tous les amoureux du cinéma, c'est une véritable caverne d'Ali Baba, les plus beaux films du monde choisis par les plus grands cinéastes. Est-ce qu'on y trouvera aussi un jour des purs films de genre du type, slasher coréen des années 70, ou bien est-ce que la ligne éditoriale restera plus classique.
Ah non, c'est très très ouvert. Hein. Il y a des cinéastes qui ont des listes qui sont très très différentes de et qui vont explorer des films de Argento, de Mario Brava, il y a beaucoup c'est ouvert après c'est ouvert à tous les genres, à toutes les cinématographies, au contraire non c'est vraiment
ce qui est très intéressant pour chaque curateur et curatrice, c'est d'aller regarder les films que eux ou elles seules ont choisis. C'est là que c'est intéressant, puisque toutes les références sont croisées et ça en dit long généralement sur les réalisateurs et réalisatrices. Est-ce que vous, les films que vous êtes seuls à avoir choisis, vous semblent être votre ADN en quelque sorte?
Je pense que les films que je suis, ça fait partie de mes terrains, j'allais dire, de curiosité et aussi parfois aussi même de pensée ou d'inscription politique. Je trouvais que c'était important de remettre au goût du jour aussi certaines femmes cinéastes, de sentir que moi aussi j'avais une transmission, moi aussi je me devais d'exister aussi en tant que femme cinéaste aujourd'hui parce que certaines femmes cinéastes avaient ouvert la voie. Donc je trouvais que c'était important de leur rendre hommage et de garder ce lien, parce que quand on découvre aussi un monument comme le film de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, avec Delphine Seyrig, c'est quand même tout un pan du cinéma et c'est extraordinaire. C'est le suspense qu'il y a sur une journée d'une femme qui a l'air complètement ordinaire, mais qu'on découvre assez vite qu'elle se prostitue et comment tout d'un coup ces journées qui sont rythmées par faire des sous, faire des cours, etc., se dérègle, et comment c'est passionnant, c'est hallucinant.
Vous vous souvenez de l'adresse de Jeanne Dielman?
C'est je sais que c'est à Bruxelles, mais c'est que voilà.
23 quai du commerce. Bravo. J'ai même le code postal qui est 1080.
Voilà. 1080, voilà, bravo.
Dites-moi, Catherine Corsini, ces films doivent tous provenir de la production cinématographique mondiale depuis le début du cinéma jusqu'à l'année 2005. Alors vous ne pouvez évidemment pas vous choisir un de vos films dans votre sélection à vous, mais si un autre réalisateur choisit l'un des vôtres, lequel préféreriez-vous?
Aïe. C'est très très difficile, je sais pas.
Généralement on dit le dernier. Ou le prochain?
Ouais, ou le prochain.
Il est
après
2005.
Je sais pas. Je dirais plutôt un des premiers comme ça. En général, les gens aiment bien les films les plus anciens. Donc je dirais Les Amoureux.
Voilà. Les Amoureux. Voilà. Les Amoureux de Catherine Corsini. Donc qu'on espère voir très prochainement dans la sélection de films à découvrir sur lacinétech.com. C'est à partir de 2,99€, soit beaucoup moins cher qu'une place de cinéma, et c'est l'ouverture d'ailleurs, 2,99€, c'est pratiquement le prix des pop-corns même.
Oui, mais voilà. C'est interdit maintenant les pop-corns, donc autant regarder la cinéthèque.
Ouais. Et c'est une ouverture extraordinaire sur le monde merveilleux du cinéma. Catherine Corsini, ne bougez pas, restez confortablement installée dans votre fauteuil de metteur en scène, car dans la suite de Pop, nous allons parler de votre dernier film, La Fracture, ce sera juste après les Pop News.
Et on débute ces Pop News avec une question.
Envie de manger quelque chose de bon. Quelque chose de juteux. Comment ça va, vous?
Quoi?
Quelque chose de musclé.
Qu'est-ce qui nous arrive?
Tada! Burger bien chaud, burger sexy.
Lean.
Quoi? C'est l'été! Et le sexe, ça fait vendre, mon chou!
Contre toute attente, ceci est la bande-annonce de Bob's Burger, le film d'après la série animée du même nom qui compte aujourd'hui 13 saisons, d'abord diffusée sur MCM et désormais sur Disney+, une série centrée sur la famille Belcher et son resto de hamburger. La bande-annonce donne le ton, comédie d'un genre très décomplexé et dont l'intrigue sur grand écran sera la suivante. Une rupture de canalisation crée un énorme gouffre juste devant le restaurant, ruinant les plans des Belcher pour une saison estivale réussie. Alors que Bob et Linda, les parents, luttent pour maintenir l'entreprise à flot, leurs enfants tentent de résoudre un mystère qui pourrait bien sauver l'établissement familial. Et Bob's Burger, ce sera le 25 mai au cinéma.
Les Texans de Spoon s'apprêtent à sortir un nouvel album et quoi de mieux pour l'annoncer qu'un single tout frais. Celui-ci est diaboliquement efficace et titré Wild.
We'll be right back.
je reconnais quelques accords de Sympathy for the Devil, des Stones. Bon, c'est Wild, à retrouver sur l'album de Spoon, Lucifer, justement, On the Sofa, et ça sortira le 11 février.
Le fils d'une richissime femme d'affaires est enlevé par un gang masqué au beau milieu d'un hôtel. L'opération criminelle est filmée par les caméras de surveillance et bientôt la vidéo devient virale. Quatre citoyens britanniques séjournant dans le dit hôtel deviennent rapidement les principaux suspects. Sont-ils les coupables ou seulement des touristes au mauvais endroit au mauvais moment? Voici l'intrigue de Suspicion, une série adaptée de la fiction israélienne False Flag. Et dans cet extrait, la mère du jeune homme rapté, c'est Uma Thurman qui parle aux médias.
Catherine Newman, I cannot imagine what you're going through at the moment. I love my son, and I want him back.
We're being set up.
Why us?
I don't know why. What do we have in common?
We're all British, and we were all in New York on the day Leonie Moon was kidnapped.
Do we look like kidnappers to you?
What does a kidnapper look like?
You.
À quoi ressemble un kidnappeur? Les quatre suspects sont-ils victimes d'un coup monté ou le coupable est parmi eux? La réponse est dans Suspicion à partir du 4 février sur Apple TV.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi, Charline.
C'est la voix off de la bande-annonce de Bob's Burger.
Bravo! Mais quelle maîtrise, mais quelle réactivité!
Oh, quel talent de comédien, surtout!
Oui, c'est pas faux. Bon, Charline, vous avez vu la Fracture, le dernier film de Catherine Corsini. Et spoiler, vous avez adoré, mais
c'est
pouvez-vous nous auto-rafraîchir la mémoire en nous refaisant le pitch?
Avec
s'il
plaisir.
Vous plaît.
Rien ne va plus entre Raph et Julie. Pour preuve, Raph a passé la nuit à envoyer des textos exponentiellement injurieux à Julie. Alors qu'elle était à côté d'elle dans le lit. Après une énième engueulade matinale, Julie fuit et Raph choit sur le coude. Elle atterrit aux urgences, Julie la rejoint, le service est en totale asphyxie. C'est un soir de manifestation parisienne des Gilets jaunes. Elles y font la rencontre de Yann, un manifestant salement blessé, et sont couvées par Kim, une infirmière plus que dévouée.
C'est dans la merde aussi, non?
Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte.
Tu n'es pas toute seule, d'accord? Tu fais jamais attention aux autres, jamais. C'est plus possible.
Vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde.
Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je pourrais en trouver là?
On en a plus.
Franchement, je vous admire, hein. C'est gentil. Hein. Mais vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service. Ça va un moment de donner de sa personne tout le temps, et de ne pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail.
La Fracture, c'est avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaille, et c'est toujours en salle. Je vous observais en train d'écouter attentivement la bande-annonce. C'est agréable d'écouter son film?
Assez agréable de retrouver les moments dans lesquels on a créé les séquences, de retrouver ces acteurs. C'est comme on le dit, hein, le cinéma, voilà, c'est la mort au travail. Donc, donc ce moment-là, voilà, il est passé, il était là. Ça, voilà, c'est quelque chose qui a existé, qui est très fort et dans une bonne annonce. Et en plus, c'est condensé. Donc voilà. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le film va ressortir grâce à la semaine de Télérama. Donc pendant une semaine exceptionnelle, il va repartir dans une semaine dans toutes les salles
très
de France.
Bien,
alors foncez le voir. Ouais, on a cité Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaille, et citons aussi dans le rôle de l'infirmière plus que dévouée la formidable Aissatou Diallo Sagna, découverte grâce à vous, Catherine Corsini. Elle est aide-soignante dans la vie, puisque pour donner la réplique à vos acteurs chevronnés, vous avez choisi de faire jouer de vrais soignants. Comment est-ce que vous avez fait d'eux des acteurs, des actrices?
Bah déjà, ils avaient une expertise de leur métier, donc ils m'ont amené, je veux dire, leur savoir-faire, ils m'ont amené leur justesse. Et puis, Aissatou, elle avait jamais joué, mais elle a un talent extraordinaire. D'abord, elle sait extrêmement bien écouter, prendre en charge la folie de Valeria, la rudesse parfois de Marina, l'excentricité aussi de je sais pas, elle a quelque chose de très enveloppant. Elle a joué à la fois son rôle et à la fois elle m'écoutait, et je sais pas, il y a quelque chose elle s'est découverte elle-même. Elle me dit qu'elle a découvert des choses telles qu'elle ne connaissait pas, surtout par exemple dans la scène d'émotion qu'elle a, où elle est prise par un patient qui va pas très bien, et où là vraiment elle doit amener, j'allais dire, une émotion très très forte, et où elle se sentait pas capable de le faire, et où elle l'a réussi une fois, deux fois, trois fois. Donc là, je lui dis, je pense que t'as trouvé quand même le petit déclic, quoi. Il s'est passé un truc.
La Fracture, c'est un film résolument contemporain, en résonance totale avec l'époque, avec notre société. Et pour trouver le point de départ, il faut remonter dans votre propre vie, Catherine, au 1er décembre 2018. Que s'est-il passé ce soir-là, alors que moi, je fêtais tranquillement de mon côté mon anniversaire?
Ben justement, je devais aller à l'anniversaire d'un copain. J'avais une bouteille de champagne. Ben non, c'était pas le vôtre. Et donc, je voilà. Et effectivement, je m'engueulais très 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 fort avec mon ami qui regardait les informations à la télé. Je n'arrêtais pas de lui dire mais les infos, ça désinforme. Enfin, les trucs habituels, etc. De rapports de couple, engueulade, machin. Je courais après elle et en gueulant. Et je suis tombée mais salement, vraiment très violemment. Et je me suis retrouvée aux urgences. Et dans ces urgences, j'étais tellement énervée, tellement piteuse. Je me suis dit, je peux pas en rester là. Il faut que ça donne quelque chose. Je peux pas en plus me gâcher la soirée, en plus me gâcher presque, enfin plus que ma soirée, parce que ça a été quand même très long à se remettre. Il faut voilà. J'ai observé, j'ai regardé ce qui se passait. Et je me suis dit, c'est un terrain de jeu dingue. C'est un voilà. Ça, c'est pas la première fois qu'on fait un film sur l'hôpital, mais disons qu'en plus on est dans une situation aussi en France tellement explosive entre effectivement des gens qui sont à bout, qui sont pas reconnus, qui sont voilà une France qui est coupée en deux avec des zones qui sont complètement abandonnées, un hôpital qui est aussi à l'abandon avec des femmes et des hommes extraordinaires qui se démènent pour des salaires de misère. Et on le sait et on le voit et depuis, ça ne cesse pas. J'ai encore eu une interview ce matin avec un journaliste de Libération pour lui dire, mais comment ça se fait qu'aucun candidat ne parle concrètement de la situation de l'hôpital et qu'est-ce qu'il va faire maintenant?
Nous avons eu ici même l'occasion de dire à Marina Foïs tout le bien que nous pensons du film. C'est un film qui oscille entre franche hilarité et, en ce qui me concerne, torrent de larmes. C'est-à-dire qu'à partir de 20 minutes de la fin, on ne m'arrêtait plus. Le tout dans un chaos des plus complets. Comment est-ce que vous avez dosé ce mélange, justement?
J'allais dire, ça revient un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait du modèle de la Cinéthèque. C'est quoi l'amour des films? C'est de partager des moments de pur délice, de pur plaisir, de pure d'émotion, des moments de rire. Moi, ce que j'aime, je peux aimer une comédie de Black Edwards comme Victor Victoria parce que c'est un modèle de raffinement, c'est extraordinaire. Et puis des mélos comme L'Incompris de Comanche. Enfin voilà, donc c'est d'arriver à mélanger et de savoir choisir. Voilà, d'essayer de juxtaposer, de faire des étincelles entre des situations complètement paradoxales, différentes. Et je trouvais que cet endroit donnait lieu à ça, parce que quand vous observez toute une nuit à l'hôpital, vous voyez des gens qui crient, des gens qui... Il y a des situations où vous avez envie de rire, il y a des situations où ça vous rend complètement... Ça vous bouleverse parce que vous voyez des gens qui vont vraiment mal et qui sont dans des états très, très désespérés. Donc c'est tout ce mélange, je crois, qui... Et puis il faut que pour que les infirmières ou les infirmiers tiennent le coup, il faut qu'il y ait de la tonicité, il faut qu'elles puissent par moments rire, parce que sinon on tombe en dépression et on arrête tout. Donc c'est cette énergie qui m'a aussi portée.
C'est-à-dire que si on continue à filer la métaphore, La Fracture, c'est un film pour ressouder. Le nœud, c'est l'écoute, la cohabitation, le collectif, sans angélisme aucun. Des vertus qu'il est important de marteler en ces temps troublés. Ça peut servir à ça aussi.
J'aurais aimé que le film ait encore plus d'écho pour que justement il montre que le message du film, en dehors effectivement de passer cette nuit aux urgences d'une manière un peu, on est un peu secoué, mais que effectivement le message du film, c'est écoutons, parlons-nous et sachons entendre aussi, parce que l'écoute c'est bien, mais il faut aussi entendre. Et c'est un petit peu ce qui manque aujourd'hui, c'est d'entendre et de trouver des solutions pérennes et pas des solutions on va vite, on fait le Ségur ça donne pas grand chose, quoi. À un moment, faut travailler un peu plus en profondeur, quoi.
La Fracture, c'est signé de notre invitée Catherine Corsini, et c'est à aller découvrir de toute urgence, si ce n'est déjà fait, au cinéma. Puisque, comme on le disait à l'instant, ça revient dans le circuit. Catherine, dans la suite de Pop Pop Pop, nous parlerons de cinéma, donc avec le livre du réalisateur Rainer Fassbinder, du film Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, de pop culture, tout ça. Ce sera après le morceau Liberté de la chanteuse Yaelil Yeli.
Je ne t'aime pas. liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté. Liberté, liberté.
Yali, Yali, c'était le morceau de Liberté, on l'aura tous compris, et cet extrait de l'album La violence est mécanique. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ah oh là là, alors là j'y suis, là. Là c'est collé l'un contre l'autre avec les bras sur les épaules, le White Orchid of Pell de Procolaro, mais c'est ce qui vous évoque la pop culture, Catherine Corsini.
Ah ouais, pour moi, c'est les chemises à fleurs, les pantalons pas de def, c'est le côté on fume des pets et on part au voilà au Nirvana, on est voilà, c'était toutes les années 70, c'est le côté babos, c'est tous ces trucs là de voilà les sabots, le retour à la terre, enfin
l'Arzac.
C'était mes années, voilà. Et bon, mais je ne suis pas allé là-bas, je ne suis pas retourné, voilà. Je suis monté à Paris.
Et il nous reste quelques mesures de White Horse Shadow Fell. Bien, continuons l'exploration de votre planète pop. C'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Le livre que vous lisez en ce moment, Catherine Corsini, c'est 8 heures ne font pas un jour, du réalisateur Rainer Werner Fassbinder. C'est un livre qui est adapté de sa série. Charline, c'est quand même pas courant, ça.
Non, je vous le confirme. C'est la vie quotidienne d'une famille de la classe ouvrière en Allemagne de l'Ouest, entre utopie prolétaire post-Trente Glorieuse et fresque sociale reflétant l'anticonformisme culturel des années 70.
Alors, mais en fait, voilà, je suis tombée là-dessus l'autre jour chez ma libraire, la libraire Colette, rue Rambuteau. Et je me dis, tiens, mais je connais quasiment tout Fassbinder. J'ai vu justement sa série Berlin Alexanderplatz, où je suis restée enfermée au cinéma, au Grand Rex, pendant deux jours, à ne voir que ça du matin au soir. C'était moi, c'est de la seule qui suis restée jusqu'au bout. Et donc, je connaissais pas ça. Il a fait ça à 26 ans. Ouais. Et je viens de découvrir que Julie Deliquet, qui est aussi une metteuse en scène de théâtre absolument géniale, l'a mis en scène. Donc, j'espère que je vais aller le voir, parce que je l'ai loupé. Elle avait déjà mis en scène le film de Arnaud Desplechin, Roi et Reine. Elle avait mis aussi en scène Bergman, le Fanny Alexandre. Ouais. Et elle avait mis en scène aussi un oncle Vania magnifique. Donc, voilà. Donc, je me suis précipitée pour lire ce texte de Fassbinder qui est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il a 26 ans, il fait une analyse de la société, en même temps c'est drôle, c'est pas du tout comme ses autres films qui peuvent être quand même très noirs. Ouais. Là il y a une espèce d'ironie, les dialogues sont pétillants, la grand-mère est complètement facétieuse, il se passe des trucs complètement dingues tout le temps. C'est prodigieux, c'est comme Fassbinder, tu te dis comment il a pu écrire tout ce qu'il a fait en tellement peu de temps. C'est un ogre, c'est un géant, c'est un devin, enfin c'est hallucinant quoi, la puissance de feu et il y a de l'ironie, c'est très très jeune justement dans cette espèce de d'effervescence, de description des personnages, et
Et ce texte a pour titre 8 heures ne font pas un jour, de Rainer Werner Fassbinder. Donc c'est édité chez qui? Dites-moi le nom de l'éditeur.
Chez Larche,
parfait. Voilà. Alors vous n'avez pas cité de série, Catherine Corsini, j'imagine.
Parce que c'est une série.
Oui, d'accord. Voilà. Bah oui, c'est pour ça, j'imagine qu'après le livre de Rainer Fassbinder, non. Vous nous conseillez donc la série.
Ben, je ne l'ai pas vue, mais elle est rééditée chez... je vais vous retrouver le nom. Dans tous les cas, c'est... Et puis de revoir aussi les films de Fassbinder sur la cinéthèque, parce qu'il y a quand même des chefs-d'œuvre absolus, des petits films des fois qui sont de genre La loi du plus fort, Tous les garçons s'appellent Ali, enfin voilà, c'est des films remarquables, des espèces de contes moraux. Dans Tous les garçons s'appellent Ali, évidemment, il y a l'histoire de cette femme un peu âgée qui va tomber amoureuse d'un jeune maghrébin et ça va faire un scandale dans toute la société autour d'elle. Voilà, et c'est des films que je trouve qui sont toujours d'une grande portée à la fois philosophique et politique aujourd'hui.
Et la série éditée chez Carlotta.
Chez Carlotta, voilà.
Bien sûr. Bon,
excusez-moi.
Alors, pas de série, enfin, cette série-là, mais en revanche, Catherine Corsini, vous nous avez conseillé un film à voir en ce moment, et ce film, c'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Charline, de quoi ça parle ?
1973, Los Angeles, Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe du lycée du garçon. Alana, elle n'est plus lycéenne. Gary a une expérience d'acteur, ce qu'il ne se prive pas de rappeler, histoire d'impressionner la jeune femme. Très amusée, elle accepte de l'accompagner à New York pour une émission de télévision.
Tu veux voir Minichon ou pas?
Je peux toucher?
À demain.
Jamais je t'oublierai, je te jure. Et tu m'oublieras pas non plus.
Dégueu.
Moteur. Caméra A. Caméra B. Clap. Action. J'arrive, Dante.
Le dernier film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, recommandé par Catherine Corsini, notre invitée aujourd'hui. Vous voyez, je vous demandais tout à l'heure quel film vous a marqué depuis 2005. Ça aurait pu être un Paul Thomas Anderson.
Aussi, effectivement, son premier film que j'ai vu de lui, c'était Punch Drunk Love, que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais c'est vrai que dans ce dernier film, il nous emmène, enfin, il a une manière de filmer, mais carrément prodigieuse, extraordinaire. Il nous emmène à chaque fois dans des univers de folie. Ses acteurs sont dingues et merveilleux. Et en plus, il faut dire que le jeune acteur, c'est le fils de Seymour Hoffman, qui était un acteur quand même extraordinaire, qu'il a dirigé dans The Master et dans Magnolia. Et vraiment, moi, c'est vrai que c'est un metteur en scène qui, à chaque fois, je veux dire, va creuser des sillons, des films à la fois différents et à la fois spectaculaires et très, très organiques et qui représente vraiment un univers extrêmement particulier, quoi.
Bien, terminons cette pop-liste avec la musique, Catherine Corsini. Et pour vous, c'est du blues, enfin pardon, du bleu. Le bleu, non pas le bleu de Klein, mais celui de Christophe. Et c'est un morceau qui fait partie de la bande originale de votre vie, c'est bien ça ?
C'est-à-dire que Christophe, c'était un ami. Je jouais au poker avec lui. Et en plus, c'était un ami nocturne parce qu'il vivait le jour. Donc, comme j'avais des insomnies, on pouvait communiquer la nuit. Et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui me manque. Et je l'ai vu. Je le connaissais pas à l'époque, mais je l'ai vu dans un concert avec Bachoum où il était venu chanter cette chanson. Et donc, je m'en souviens, pareil, comme de tous les films. En plus, Christophe était un immense amoureux du cinéma. Il avait lui-même, j'allais dire, un projecteur de cinéma. Il faisait des projections. Cinéphile. C'est un grand cinéphile, un grand joueur de poker, un ami, quelqu'un, merveilleux.
Et l'occasion idéale de repenser aujourd'hui à Christophe et à ses mots bleus.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dis. Qui rendent les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence. immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Comme les baisers que l'on vole, il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux.
Les mots bleus de Christophe, c'était le choix de Catherine Corsini, invitée de Pop-Pop, aujourd'hui venue nous parler de cinéma. Merci infiniment Catherine Corsini.
Merci
vous êtes
à vous.
Déplacée
Merci.
Jusqu'à ce studio. Je rappelle que votre sélection de films est à découvrir sur la cinétech.com et je rappelle aussi que votre film La Fracture est toujours à l'affiche dans les salles Courrézy. Précipitez-vous voir
oui,
ce film.
Qui vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez être bouleversé.
Voilà,
c'est
tout
garanti.
Ça à la fois. Merci, Charline.
Merci.
À demain. Et merci à toute l'équipe de Pop-Pop et à Nicolas Delmas qui était à la technique aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pop-Pop avec Jérémy Régnier qui vient en ennemi. Non, pardon, il vient nous parler de son film, L'ennemi. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets. 3615 Pop-Pop. Juste après les infos, rendez-vous avec toute l'équipe de Par Jupiter, emmenée par Charline Vanhoenacker.